Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Product Café. Comme à notre habitude, ce matin, je retrouve mes acolytes Anna et Victor. Comment ça va, Anna ?
Ça va très bien, et toi, Axel ?
Ça va très bien, comme un vendredi. On enregistre un vendredi cette fois-ci. Comme un vendredi.
Et toi, de ton côté, Victor ?
Bah, très bien aussi, content de vous retrouver. Là, c'est... Allez, on parle un peu de météo. Là, c'est la période où le soleil revient. C'est la période où les jours se rallongent. Donc, voilà, très heureux de se retrouver en ce vendredi avec vous.
Petit clin d'œil à notre ami Thomas qui adore nos segments météo.
On profite du coup pour présenter notre invité de la semaine. Donc, ravi d'avoir une très belle boîte de l'attaque. Belle représentante. Donc, Alexia, si tu as quelques mots pour te présenter.
Bah, bonjour à tous, bonjour à tous les trois. Et puis, merci du coup de me recevoir avec vous sur le podcast. Je m'appelle Alexia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis designer advocate chez Figma en France. Et du coup, j'y travaille depuis à peu près un an et demi bientôt. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Axel à The Product Conf l'année dernière. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est rencontrés entre ex-londoniens et on est restés en contact. Et donc, je suis là aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer.
C'est la mafia de la tech états-unienne en France.
Qui permet à Axel d'avoir tous les gossips, toutes les dernières petites embrouilles dans l'écosystème niche des coachs produits.
C'est une bulle, arrête, c'est une bulle.
C'est peut-être une petite bulle. Et d'avoir des interviews avec Marty Kagan en preview. Alors j'en profite, toi, c'est intéressant parce qu'on a donc Axel hein, qui bosse chez Jira, Atlassian et toi, Alexia, chez... J'ai fait, mais là, bon, du coup, je rentre direct dans le vif du sujet. Hier, j'ai vu un post passer que tu commentais, Axel, sur les backlogs, en fait, et l'auteur disait qu'il forçait un petit peu maintenant ses clients ou ses équipes, je me rappelle plus très bien, à faire un backlog de discovery, un backlog de delivery. Donc, en gros, bon, j'ai un sujet, quand il est pas hyper mature, je mets dans un backlog de discovery, et puis, donc, je fais des entretiens, des protos, des choses comme ça. Une fois que je suis à peu près sécurisé, que le truc est fiable, vol, bah du coup j'envoie un backlog de delivery pour que le truc soit développé avec toujours cette même idée que j'ai pas envie de dépenser du temps pour écrire des lignes de code que je vais devoir bouger derrière, enfin voilà, qui est cœur hein, je pense au concept de product management. Et en fait moi ça m'a un petit peu fait sauter sur ma chaise, enfin moi en fait je trouve que c'est un peu aberrant, mais je trouve que justement il faut éviter autant que possible de splitter discovery delivery. Parce que je trouve que ça te met pas dans le bon mindset en fait de faire ces choses-là. Pour moi, c'est beaucoup plus continu le product management. En fait, t'as une idée, une hypothèse, et puis en fait, t'as envie de le pousser à des utilisateurs qui vont bien l'aimer en production. Et donc en fait, de se dire j'ai une entre guillemets une étape de discovery puis une étape de delivery, c'est un peu antinomique avec ça. C'est plus compliqué que ça en pratique, hein, évidemment, parce que c'est pas une histoire de je fais un cycle en V et tout. Mais voilà, moi j'ai justement je me bats pour pousser pour pas qu'on ait ce côté je te fais d'abord passer en phase en discovery, enfin je fais d'abord des actions discovery pour des risques et puis de la delivery, et là en fait faire un backlog ça institutionnalise. Bon, mais du coup juste quand même pour présenter l'argumentaire un peu inverse, ça serait de dire OK, mais c'est bien de faire c'est bien de pas distinguer les deux, mais en fait en pratique on se rend compte qu'il y a tellement d'urgence que on va toujours avoir tendance à aller tout de suite faire des actions de code, de développement, de delivery, et donc sans avoir un peu ce backlog discovery qu'on force, en fait, on se retrouve à pas en faire suffisamment. Voilà. Donc, la question que je vous pose, c'est vous en pensez quoi? Et notamment, est-ce que c'est la cible d'avoir ces deux backlogs-là? Ou est-ce qu'en fait, c'est un état intermédiaire pour aller vers plus de discovery qui ensuite, en fait, fera qu'on aura un seul backlog et puis on arrivera à signer les tickets? Voilà. Bon, je pose ce truc-là, parce que c'est pavé dans la mare. Enfin, je sais pas si c'est un pavé dans la mare. En tout cas, j'ai cette question à vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ce qui m'interpelle dans la notion de backlog, enfin le risque que j'y vois, c'est pour ça que je te rejoins un peu sur le fait que t'es bondi de ta chaise, c'est que qui dit split entre discovery et delivery, pour moi, le gros risque, c'est que du coup, tu splits aussi quels gens travaillent sur quelle partie du projet ou du produit. Et alors que nous, on se bat en permanence pour expliquer qu'il faut avoir tout le monde dès la première étape, je trouve que le fait d'avoir deux backlogs séparés, ça risque à intuitivement, du coup, dev égale delivery, donc on n'inclut pas forcément les parties prenantes tech, voire et potentiellement, ça dépend des organisations, mais les designers dans le cas où c'est que les PM qui font la disco. Enfin voilà, c'est juste... Après, dans la réalité, je comprends bien qu'ils fassent effectivement arriver à pousser les sujets disco, donc ça, j'y suis sensible. Mais je te rejoins sur le... Ça fait 13 paradras.
Ouais. Non, et puis derrière, avec plein d'écueils en mode, du coup, les juniors font la delivery dans la soute et les seniors font la discovery et ça, c'est cool et tout. Non, mais du coup, je réponds ce que vont dire, je vais me faire l'avocat du diable, hein. Ce que disent mes...
J'aime bien ces conversations où tu fais toutes les représentations. Pas mal comme concept.
Non, mais. Moi, mes amis dans ma tête.
Le théâtre. Ouais.
Non, mais du coup, en gros, ce que vont dire les gens, si tu leur dis ça, ils vont dire oui, mais en fait, si je split pas les personnes, à un moment, en fait, tu vas prioriser toujours sur la délivrée et en fait, en termes d'urgence, tu vas toujours avoir plus d'urgence côté délivrée, ce qui fait que si t'as pas sanctuarisé du temps, en fait, t'auras pas de gens qui vous feront de la discovery.
Moi, je le voyais un peu comme ton second argument de dire que c'est un intermédiaire. C'est un peu pour mettre pied dans la discovery et un peu le sacraliser, donc y associer du temps. Mais je suis d'accord que c'est pas l'état cible, quoi. Si l'état cible, c'est un peu de faire de la discovery en continu, comme tu le proposes. Moi, je sais que, par exemple, moi, dans mon expérience actuelle, on est très projet. Donc, en fait, on a finalement un peu ce backlog de discovery où on essaye, de par les processus qu'on a mis en place, d'avoir toujours la vie designer tech produit. Mais c'est vrai que c'est un peu à part, en fait. C'est pas continu.
Et sans perpétuer le drame qui est en train d'envahir mon flux LinkedIn en ce moment entre le product puriste versus le product pas puriste, je pense que d'un point de vue très pragmatique, moi, ce que je vois chez pas mal de clients chez Atlassian qui, des fois, sont quand même d'une certaine taille, c'est que, en fait, il y a les activités que tu vas conduire de jour en jour dans le flow, le cycle de développement de ton produit, donc pendant la phase de discovery et pendant la phase de delivery, qui ne sont pas forcément déconnectées l'une de l'autre. Donc, il y a des activités qui se passent, bien évidemment, en dehors des outils. Et ensuite, il y a comment tu représentes les informations autour de ces activités-là dans les outils. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que la majorité de nos clients vont nous dire, déjà, il y a dans une forme de consensus général dans le monde pour dire que si tu mets un ticket dans Jira, donc dans Jira Software, si tu mets un ticket dans le backlog, il est très probable qu'un développeur se dise « Tiens, ça, c'est du vrai boulot, c'est-à-dire qu'on va construire ce truc-là. » Donc, du coup, conceptuellement, pour beaucoup de monde, mettre un ticket dans un backlog Jira Software, ça veut dire « On est sûr qu'on va construire ce truc-là un jour. » Et du coup, beaucoup d'équipes produits ont besoin d'avoir un espace où elles puissent avoir des conversations autour d'un sujet, d'un item, d'une idée, d'une opportunité, sans forcément savoir est-ce qu'on va construire ce truc-là. Et c'est là où avoir un autre backlog qui n'est pas un backlog où les développeurs vont tout de suite travailler sur des tickets, mais plutôt un backlog d'idées ou d'opportunités où en fait, on va passer dans le cycle de la discovery, on va aller trouver des insights, on va aller trouver des preuves, des data points qu'on va venir ramener pour enrichir cette idée-là à travers les activités de discovery, prend tout son sens parce que il faut bien pouvoir, entre guillemets, traquer, rattacher les idées, les insights à cette idée, suivre comment cette idée, elle gagne en fidélité. Donc, pour les gens qui nous écoutent, pour ceux, par exemple, qui utilise le framework Opportunity Solution Tree de Teresa Torres. Quand tu es en train de travailler depuis tes outcomes, que tu réfléchis à tes opportunités bien avant de commencer à explorer la partie solution, tout ce travail-là, qui des fois peut durer des semaines, il faut bien que tu le documentes quelque part. Et c'est là où le fameux backlog de discovery prend tout son sens. Et je suis pas en train de dire qu'il faut avoir deux backlogs séparés absolument, mais de manière très pragmatique, ce que moi je constate chez beaucoup d'entreprises, c'est qu'en fait, d'avoir tout dans le même backlog, c'est compliqué.
Et attends, du coup, Axel, alors, comprends ton point, mais comment vous faites quand tu déconnectes, quand tu as un peu cette espèce d'endroit où tu fais la discovery et puis du coup, le backlog vraiment où le dev, en fait, dès qu'il voit un truc dedans, il peut pas s'empêcher le dev. Comment?
C'est pas qu'il peut pas s'empêcher le dev, il faut bien se dire un truc, c'est que
une notion de ça va arriver.
Alors, il y a ça, et puis il y a un autre truc, c'est que dans beaucoup d'entreprises, on mesure beaucoup de choses qui se passent dans les tickets qui arrivent dans Jira Software. Genre, quand est-ce qu'il est arrivé le ticket? Quand est-ce que le développeur va bosser dessus? Combien de story points? Quelle est la vélocité de l'équipe? Donc en fait, si tu commences à regarder de plus près ces choses, en fait, c'est un monde en fait qui est très orienté vers la productivité des développeurs. Alors, ça, c'est un autre débat, mais
Moi, je
ne fais pas des produits là-dessus, mais
moi, je suis pas un fan. Et d'ailleurs, chez Atlassian, on n'est pas du tout de cette école-là. On parle plutôt de developer experience. On parle pas de developer productivity. Mais c'est pas parce que nous on a une opinion là-dessus que ça veut dire que le reste du monde fonctionne comme ça. D'ailleurs, le reste du monde fonctionne pas comme ça.
Mais donc du coup, la question c'est, est-ce qu'en fait c'est parce que le reste du monde, pour le dire simplement, est pas encore assez mature? Et qu'en fait, il faut les amener vers un state où en fait, tu peux mettre pour moi, un ticket, c'est juste une opportunité que tu vas creuser, puis elle est plus ou moins certaine. Et en fait, tout le monde dans l'équipe Codru est capable de se dire, en fait, aujourd'hui, le niveau de certitude qu'on a là-dessus fait qu'il faut mettre en place telles actions. Et ça peut être un peu de code, ça peut être un peu moins de code. Est-ce que ça, c'est l'état final? Mais en fait, aujourd'hui, les gens dans le monde, ils ont du mal à aller vers ça. Donc, on les force un petit peu à splitter. Ou est-ce que pour toi, ça reste quand même la cible d'avoir un peu cette distinction entre les deux?
En fait, je pense que nous quatre réunis là, ici, je pense qu'on évolue dans une bulle. La réalité de la majorité des boîtes, c'est que ils ont des backlogs dans lesquels il y a plus de 200, 300, 400, 500 tickets. Dans la majeure partie des cas, il y a 80% de ces tickets qui ne verront jamais le jour, qui ne seront jamais joués. Et en fait, on rentre tout de suite dans des sujets de je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a une obsession de nettoyer le backlog. Il faut le backlog est devenu une espèce. Voilà, c'est devenu une espèce de poubelle où on met tout. Et puisque c'est devenu une espèce de poubelle où on met tout, il y a un jour où quelqu'un se dit dans l'équipe produit, ça serait bien en fait qu'on ait un endroit un peu plus clean où on peut bosser un peu sur nos opportunités sans mettre ses idées à la poubelle, parce qu'en fait c'est devenu une poubelle.
Même pour moi, c'est juste que le discovery backlog, il va devenir tout aussi fouillé que.
C'était un peu ça. En fait, moi, ma question, c'était limite, est-ce que la notion de backlog, pour être encore plus au niveau d'au-dessus, est-ce que même la notion de backlog, en fait, c'est pas ça qui va remettre en question? Effectivement, dans la pratique, dans la théorie, le backlog, super chouette, ça permet d'avoir de la visibilité sur le futur de ce qui vient, ça permet de mesurer en avance, compter les points, super bien. Dans la réalité, moi, l'expérience que j'en ai eue, alors, on parle de bulle, tu parlais de bulle tech, faut savoir qu'avant Figma, moi, j'ai travaillé pour la RATP, donc un peu aux antipodes de ça. Donc, tout ce que tu décris, je vois très, très bien parce que c'est du vécu. et notamment
en fait en dire, Kia, t'es en train de dire que la RATP c'est pas comme Figma?
C'est dingue, c'est différent, mais après c'est des réalités différentes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste des réalités différentes. Et effectivement, alors c'était pas formalisé comme étant de backlog, il y a personne qui s'est posé et qui a dit activement c'est comme ça qu'on travaille et on va scinder, mais en fait dans la pratique on s'est dirigé là-dessus. Effectivement, à un moment donné on a eu des opportunités, on a eu des épiques qui étaient ultra macro, et quand c'était en discovery, je dirais pas que c'était un backlog, je sais plus, c'était de la documentation. C'est pas vraiment la notion de backlog. C'est pas forcément la notion de, moi, backlog, c'est un truc, on va l'aborder à un moment donné. Alors que c'était pas forcément, pour moi, la discovery, c'était pas, voici une liste de courses de 15 trucs où un jour dans l'année, il faudra se poser et il faudra qu'on aille explorer ça. C'était plus, il y a un truc à explorer immédiatement, on va le faire. Et là, on commence à documenter autour de ça. Et à un moment donné, ça peut donner des bébés de tickets Jira. Et là, ça va passer dans un, entre guillemets, backlog tech, qui rejoint un peu ce que tu dis, effectivement, dans le delivery. Mais delivery purement, tech, pas, parce que moi il y a une notion de delivery design aussi, c'est pour ça que ça me chagrine. Je veux pas qu'on mélange discovery et delivery, dans le sens là, production de maquette et derrière qui passe en end-off.
Mais est-ce que du coup, en fait, mais moi je pense que justement, tu vois, je pense qu'il y a un problème à dire ça, c'est du delivery tech, tu vois. Moi je penserais être faux. Enfin, c'est la même chose pour moi, c'est un continuum, tu vois, de j'ai une idée à, du coup je creuse.
Ah oui, dans un monde idéal, oui.
C'est pour ça aussi que je scinde les activités. En fait, c'est ça le truc, c'est que il y a les activités qui se passent dans la vraie vie, de ce que tu fais avec tes collègues au travail tous les jours, et comment tu représentes cette information dans des outils. C'est deux choses, en fait.
Ouais, non, mais
Ça pose un débat philosophique encore plus élevé, parce que en tant que gens qui travaillent dans l'outil, elle parlera, mais souvent les gens, des conversations qu'on a souvent, les gens pensent que l'outil va tout résoudre, ou que c'est l'outil qui fait la base du process. Et en fait, à un moment donné, c'est pas non, il y a l'humain aussi, il y a des gens avec qui on bosse, et la façon dont on communique, c'est pas juste
donc en fait,
c'est pas juste un ticket.
C'est pour ça que tout à l'heure je disais et je dis pas ça c'est un peu marrant, la réalité c'est que je pense vraiment qu'on est dans une bulle, mais je dis pas ça juste pour dire qu'on est dans une bulle. La réalité c'est que moi par exemple, avant d'arriver chez Atlassian, dans ma tête de puriste, je me disais d'abord les bonnes pratiques, ensuite les outils. C'est très difficile pour vous de ne pas être d'accord avec ça, je pense. À mon avis, vous êtes d'accord avec moi. d'abord les pratiques, ensuite les outils. Ce dont je me rends compte en discutant avec plein de clients, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment des grandes entreprises, où si tu n'as pas les outils, tu auras jamais les pratiques. Parce qu'en fait, tu pourras jamais passer les pratiques à l'échelle. Et quand tu as une équipe, quand tu as une équipe digitale dans laquelle il y a 2000 personnes, c'est quasiment impossible de passer à l'échelle les pratiques sans les outils. Et du coup, juste pour te rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Victor, moi, je suis 100% aligné avec toi sur continuum. Il n'y a pas à un moment, on dit, on arrête tout, on passe de discovery à delivery. C'est un flow, en fait. J'aime bien ce terme-là. C'est un flow d'activité qui finalement passe le niveau de fidélité de nos idées, de nos opportunités à un état où on connaît pas grand chose, à un état où on a un niveau de confiance élevé et en fait, on construit la chose. Ceci étant, la réalité des boîtes qu'on connaît tous, c'est que à un moment, les gens doivent organiser le travail dans les équipes et la manière dont ils représentent ça aujourd'hui fait que, par exemple, moi, je sais que je parle à beaucoup de gens qui utilisent le terme « dumpster fire » pour décrire le backlog dans Jira. Parce qu'en fait, c'est devenu une déchetterie, le truc. C'est-à-dire, on met tout là-dedans. Et à un moment, il y a des product managers qui se disent, mais moi, j'ai besoin, entre guillemets, d'un espace un peu clean, un peu safe, où je peux explorer des choses où mon niveau de confiance est relativement bas, sans que tout le monde arrive dans mon truc et commence à poser des questions et mettre des commentaires et dise, attends, mais ça, c'est quoi? Ouais. Ça, c'en est où? Tu vois, c'est ça aussi, c'est comment je veux créer cet espace pour la discovery.
Je pense qu'en plus, on est à peu près d'accord. En fait, après, c'est une question de, il faut aller vers l'étape supérieure et moi, je suis un peu plus impatient. En fait, moi, je me dis, du coup, il faut forcer, il faut essayer d'y aller, de pousser vers ça. Et en même temps, il y a un côté pragmatique où à un moment, il faut délivrer. Il faut construire les produits. Et donc, en fait, il faut trouver une manière aussi de faire ces choses bien. Et peut-être que splitter, c'est une bonne approche, effectivement. Ouais, très cool. En tout cas, merci pour les éléments. Super discussion.
Et Anna, tu avais un sujet dont tu voulais parler, un sujet croustillant.
Tout à fait. Je voulais parler du qui se passe côté TikTok États-Unis en ce moment. Donc, pour remettre un peu les faits, donc projet de loi qui a été voté par la Chambre des représentants. Donc c'était la semaine dernière, à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc on parle beaucoup de ban et c'est ça que je voulais mettre l'accent là-dessus. En soi, c'est un des effets potentiels, mais le projet de loi, c'est pas sur le ban TikTok. C'est sur la vente obligatoire de TikTok d'ici 6 mois par une entreprise qui serait ni reliée à la Chine, Corée du Nord, Iran, Russie, enfin bref,
La liste des restricted countries.
Exactement. Donc, si jamais ils n'arrivent pas à vendre en 6 mois, effectivement, il y aurait un ban. Mais là, tout le monde s'excite sur les réseaux en mode « c'est terrible ». Moi, c'est short. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ça a déjà été fait avec Grindr, mis 1 an à être racheté. Donc, voilà. Peut-être pas très réaliste, mais en tout cas, je ne savais pas qu'il y avait des précédents. Du coup, je lisais un peu de savoir, bien sûr, il y a toutes les considérations géopolitiques, les tensions sino-américaines.
C'est d'ailleurs le point de départ du gouvernement américain, c'est la partie géopolitique.
Complètement, ouais. Donc, tout le monde s'insurge parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression à laquelle les États-Unis sont très proches. Mais ce que je trouvais intéressant comme clé de lecture, c'est de se dire qu'en fait, maintenant, ils le voient vraiment comme un média, comme un autre TikTok. Et en fait, ça s'inscrit vraiment dans une histoire et dans une volonté politique qui a toujours existé, qu'on a aussi en Europe et qu'on a en France, de ne pas avoir de médias qui sont trop détenus, en fait, par des étrangers. Et en fait, quand on y réfléchit comme ça, c'est vrai que TikTok, et c'est pour ça que beaucoup de content sont en train de se liguer contre, du coup, ce projet de loi, c'est parce qu'en fait, ils font leur business sur TikTok. Beaucoup de gens, maintenant, comme c'était le cas il y a 5-10 ans, se nourrissent et s'informent sur non plus Facebook, mais maintenant TikTok. Et en fait, quand on regarde avec ce prisme, c'est vrai que moi, je trouve que ça fait sens d'un point de vue politique. Certes, en backdrop, il y a ces considérations géopolitiques, mais je trouvais ça intéressant comme clé de lecture. Je sais pas, vous, de votre côté, comment vous voyez un peu le sujet.
En France, on n'aime pas que les médias soient détenus par les étrangers, etc. Par contre, en France, ça ne pose aucun problème que Bolloré ait une concentration de tous les médias. Ça ne pose aucun problème. Mais je pense que c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est, je pense que c'est l'origine aussi de ça. Donc, il y a un sujet géopolitique, c'est-à-dire les États-Unis disent, qui dit TikTok, dit ByteDance, qui dit ByteDance dit boîte chinoise, qui dit boîte chinoise dit lien au gouvernement chinois. Donc du coup, ça c'est pas OK pour le gouvernement des États-Unis. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant dans cette histoire, c'est que le plus gros marché pour TikTok, effectivement, c'est les États-Unis, avec un taux de croissance absolument délirant. Et en fait, c'est une application qui est ultra populaire chez les, je crois que c'est les 15-25 ans. Donc, il y a beaucoup d'ados et de jeunes adultes qui sont dans TikTok tous les jours. Et au moment où il y a eu cette motion pour dire, en fait, on va forcer l'entreprise TikTok US de se libérer de ses attaches avec la Chine. Donc, en gros, elle se fait racheter par une boîte états-unienne ou alors elle dégage. TikTok, dans l'application, a créé une bannière. Donc, quand tu te connectais, tu étais aux États-Unis, tu te connectais dans l'application TikTok, tu voyais tout de suite un message et tu étais obligé de regarder les messages. Tu ne pouvais pas accéder à l'application, tu ne pouvais pas « skip », entre guillemets. Et ce message dit « parce que sinon, l'application va être ban », etc. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que un des arguments qui est utilisé par le gouvernement des États-Unis pour dire on ne veut plus avoir TikTok, c'est la capacité d'une application ou d'un réseau social comme TikTok de potentiellement manipuler les gens.
D'avoir un impact politique.
Exactement. Mmh. Et du coup, en faisant ça, ce que TikTok a réussi, c'est que il y a des milliers de jeunes qui ont appelé leur congressman, qui appellent jamais leur congressman. Et en fait, ces fameux congressmen disaient, des fois, en 10 ans de carrière, on n'a jamais reçu autant d'appels. Et en fait, ça te montre la puissance que peut avoir une application mobile qui, d'un côté, prouve un peu le point du gouvernement états-unien, mais de l'autre côté, montre aussi que on peut faire s'impliquer des jeunes dans la politique quand il s'agit de certains sujets, quoi, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Alexia.
J'avoue, alors je n'utilise pas TikTok au jour le jour. Au fil de la conversation, j'étais en train de me faire un peu les arguments pour et contre dans ma tête. L'argument contre, je crois que c'est que juste philosophiquement, TikTok, c'est compliqué par principe. Que ce soit chinois, pas chinois, c'est même pas une question, c'est juste le produit en tant que tel. Je pense qu'il y a déjà pas mal de questions là-dessus. Et en même temps, le côté cynique en moi me dit, de toute façon, si c'est pas fait par ByteDance, ça sera fait par autre chose. Stade où on en est maintenant qu'on sait que ça marche, la loi du marché fait que... par Insta, ça sera, enfin, par un Meta, par ce que vous voulez. Est-ce que c'est mieux, pas mieux? Voilà. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça met en lumière, je pense, pour les gens même hors de la tech, parce que ça, c'est une conversation qui a des répercussions. Enfin, en tout cas, que on en parle bien, bien au-delà de nous, notre cercle de techos. C'est effectivement le fait que ça mette en exergue pas l'hypocrisie, mais un peu les contradictions inhérentes sur les positions américaines par rapport à ce genre de choses. Où d'un côté, on n'a aucun problème à nous faire nous pousser du Meta, du Google, ce que vous voulez. Mais alors, par contre, quand ça vient d'ailleurs, là, ça devient très compliqué. Alors qu'en fait, au final, c'est pas...
Meta, tous les 15 jours, ils sont devant le gouvernement, quand même, aux États-Unis.
En ce moment, oui.
C'est quand même un sujet... Tu sens que c'est un sujet un peu délicat, notamment dans... Donc, tu disais tout à l'heure, Anna, il y a un vrai sujet aux États-Unis autour des libertés. Ça, c'est très ancré dans l'ADN, on va dire, du pays. Et on sent que là, quand on commence à comprendre la collecte de données, les cookies, les machins, ça c'est un truc, c'est compliqué, quoi.
Mais je pense que c'est pas juste
et le business, tu vois.
C'est-à-dire, c'est pas juste une question de liberté, c'est juste une question de contrôle du marché par le gouvernement aussi. Et ça, c'est ça aussi qui va fondamentalement, je pense, à l'encontre d'une position que les États-Unis ont toujours entre guillemets pris, qui est le côté très libéral. On fait un minimum d'intervention, on laisse le marché s'autoréguler. Et tu vois, quand tu disais, Meta, maintenant, passe toujours devant le gouvernement, maintenant, on arrive à un stade où t'as des monopoles dans plein d'industries. Et le gouvernement se dit, ah ouais, peut-être que ça vient d'intervenir. Mais ouais, c'est juste intéressant de voir. Alors, je sans rentrer dans le détail, ceux qui suivent l'actualité Figma auront compris qu'aussi on est passé par là. Et voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus d'implications aujourd'hui des législations, en tout cas des gouvernements, et notamment du gouvernement américain, sur ces questions de qui a le monopole du marché, qui contrôle en fait les masses, contrôle les flux, accessoirement aussi d'argent, de revenus. Et ouais, c'est juste intéressant de voir ce changement, parce que je pense que c'était pas le cas il y a 10 ans.
Ouais, après, ce qui est sûr, c'est que les Américains ont toujours fait preuve d'un patriotisme économique, c'est-à-dire utiliser leurs outils de soft power, power au service de leur économie. Donc du genre, moi, je me rappelle il y a quelques années, notamment, en fait, les Américains interdisaient à des boîtes, enfin, interdisaient à des boîtes de bosser avec l'Iran. Et si jamais ces boîtes bossaient avec l'Iran, en fait, ils leur interdisaient d'utiliser le dollar. Donc en fait, il y a une forme de réalisme américain qui est pas nouveau. Et en fait, pourquoi c'est pas incompatible avec leur côté, on aime beaucoup la liberté d'expression et le libéralisme, c'est qu'en fait, ils sont très pour le libéralisme quand ça leur profite à eux et à leur marché intérieur et à leurs
entreprises.
Mais TikTok, effectivement, c'est un peu plus complexe parce que il y a pas juste un enjeu économique, c'est vrai qu'il y a un enjeu sociétal. Par exemple, on dit beaucoup, alors je sais pas si c'est vrai, mais que l'algorithme TikTok, en fait, en Chine, il est pas pareil que dans le reste. En Chine,
exact.
Ce qu'on dit, c'est qu'il monte des contenus éducatifs, donc en fait, il est en train de booster les jeunes pour qu'ils deviennent, qu'ils voient plein de sujets hyper intéressants, et en fait, le reste du monde, on leur file de la soupe pour que
c'est leur
lave le cerveau. Voilà. Bon, je fais une parenthèse quand même. C'est vrai que TikTok, on a une vision souvent un peu négative. Enfin, je pense que nous, notre génération, on a une vision un peu négative. On n'est pas dans les 15-25 ans. Et moi, c'est vrai que je vois quand même pas mal de monde qui aime beaucoup cette appli, notamment chez les parents. Enfin, moi, je sais que mon père, il regarde beaucoup TikTok, qu'à 60 ans. Et l'algo fonctionne bien, en fait. Hein, le produit est bon en tant que tel. Mais voilà, moi, c'est sûr
que c'est ça le problème, c'est que le produit est trop bon.
Mais c'est pour ça que j'allais dire, si c'est pas eux qui le font, c'est d'autres personnes qui le feront, tu vois. Et alors, on parlait des 4-25 ans. Moi, ma première fois où j'ai vraiment dit, ah ouais, TikTok, là, c'est en train de devenir un gros truc, c'était mon ancien manager, plus âgé que moi, du coup, pas beaucoup, qui me disait que lui, en fait, maintenant, c'était son nouveau Google. En fait, il voyage dans un endroit et il va chercher restaurant à Paris, restaurant à Strasbourg, à Lille, ce que tu veux.
Il y a des stats là-dessus, d'ailleurs.
C'est un moteur de recherche, en fait. C'est un nouveau moteur de recherche.
Est-ce que vous pensez du coup, en fait moi je sais pas si c'est, est-ce qu'en fait les États-Unis par ça, est-ce que c'est vraiment un truc un peu de principe, c'est-à-dire c'est une posture très philosophique où on a envie un peu de contrôler un peu ce que disait Anna, c'est-à-dire on a envie de contrôler quelque part les médias qui arrivent chez nos jeunes et notre population et on a envie de contrôler ce truc-là, quoi, cet input. Et bon alors peut-être qu'il y a des médias français d'autres trucs, mais là TikTok ça a une ampleur beaucoup plus élevée et puis c'est la Chine. Ou est-ce que c'est plus économique au sens où, en gros, bon, TikTok, ils sont quand même en train de rattraper Instagram, les plateformes de réseaux sociaux américaines, qui ont très, très bien marché pendant ces 10 dernières années. Et vu qu'en plus, TikTok est très bien positionné chez les jeunes, en fait, potentiellement, ça veut dire que dans 10-15 ans, Instagram, c'est un truc de boomer et en fait, tout le monde va sur TikTok. Est-ce que vous pensez, du coup, c'est plutôt philosophique ou plutôt économique comme action de la part?
Je pense qu'il y a aussi un statu quo qui est le fait que si tu regardes historiquement les boîtes numériques qui ont de l'influence, elles viennent quasiment toutes des États-Unis et quand elles viennent pas des États-Unis, elles sont rachetées par des boîtes qui sont aux États-Unis. Donc en fait, la masse critique de l'influence, elle est aux États-Unis. Donc je prends un exemple. Bien évidemment, c'est certainement pas pour ça que ça a été racheté, mais Zenly, la boîte française, à un moment, ça devient intéressant et Snap rachète. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que la masse critique des financements dans le digital et cette culture d'acheter, elle est plutôt états-unienne. Donc il y a déjà ça.
Mais tu vois par exemple Alibaba, ça a beaucoup grossi et pourquoi Amazon n'a pas dit j'achète Alibaba? Alors oui, tu vas me dire Alibaba ça distribue pas vraiment beaucoup aux US, mais un petit peu quand même. Tu vois pourquoi,
un sujet de géographie et de logistique aussi.
Ouais, probablement.
Ou pas, parce que du coup, Amazon, enfin, t'as de gros des choses Amazon qui viennent aussi de Chine, hein, c'est pas forcément. Non, je suis pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Alibaba, pour le coup, est plutôt bien implanté dans sa région, en Asie.
Anna, t'allais dire un truc?
Non, mais en fait, pour moi, c'est juste une accumulation de plein d'arguments différents et c'est marrant parce que je lisais un peu les éditos sur le sujet. Vraiment, chacun, tu peux avoir un avis ultra tranché sur la question, mais si tu retiens un argument, car si tu retiens l'argument géopolitique, les gens sont all-in. Si tu retiens l'argument liberté d'expression, les gens sont, non mais c'est juste inacceptable. Si tu prends l'argument économique, pareil. Et en fait, moi je trouve ça assez difficile de se faire une opinion sensée. Il y a tellement de choses en jeu, en fait. Politique, géopolitique, économique, sociale, culturelle, etc. Je trouve ça fascinant, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un précédent. Il n'y a pas de précédent sur ce sujet. Et c'est très explosif aussi, parce que, effectivement, Il y a deux arguments qui sont présentés au niveau social. C'est qu'il y a les élections américaines qui se profilent. Et donc, on veut pas refaire le Facebook Gate d'il y a quelques années. Et l'autre argument, c'est que je regardais un peu, en fait, TikTok, le CEO, a été très entendu aussi. Il y a eu des hearings avec le Congrès américain. Et en fait, ils lui ont pas tant posé les questions sur le background géopolitique. Ils ont plus posé des questions sur qu'est-ce que vous mettez en place pour protéger nos enfants. Et en fait, c'est via cet argument aussi, et c'est pour ça que les gens sont tellement attachés, ils pensent à leurs enfants. Ils pensent à... c'est marrant, ils se disent, bah forcément, vu que ça vient de Chine, les contenus sont beaucoup moins... c'est beaucoup moins safe que ce qu'on pourrait pousser sur Facebook ou Instagram. Alors que...
C'est super intéressant ce que tu dis, Anna, notamment dans comment les sujets sont positionnés et sont cadrés, et comment nous, on réagit, c'est-à-dire... souvent, les sujets sont positionnés comme c'est ça ou ça. Et du coup, nous, on est obligé de se positionner de la même manière. Donc, par exemple, TikTok, soit c'est racheté par une boîte qui est états-unienne, soit ça dégage. Donc, du coup, nous, on doit se positionner. C'est-à-dire, soit on est plutôt pro-américain, soit on est pro-chinois. Alors que, c'est, comme tu dis, le débat, il est peut-être pas aussi binaire. Et dans beaucoup de ces sujets-là qui touchent à notre éducation, nos valeurs, comment on a été construit comme des adultes, etc. Des fois, moi personnellement, je me sens obligé de me positionner sur des trucs parce que ça me touche. Oui. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant. Ce que tu apportes dans la discussion, c'est que il y a toujours un autre narratif qui est un petit peu plus loin que ce qu'on voudrait qu'on voit immédiatement, qui est peut-être le narratif qui vaut le plus que notre attention, quoi, entre guillemets.
Ouais, c'est ce que tu disais aussi, Victor, en intro, c'est qu'en fait, c'est B2B, B2C maintenant. Et en fait, je pense que le grand public, et c'est eux qui réagissent, et c'est ce que tu disais aussi, Axel, c'est eux qui appellent aussi leur congressman en disant « Non, j'ai besoin de mon fixe, donne-moi ma drogue ». Et après, il y a aussi tous les business, en fait, qui juste ont basé leur croissance et leur super croissance sur cet outil, et pour eux, en fait, c'est un arrêt de mort, en fait. C'est ça?
Vous pensez, en fait, ouais, là en réfléchissant ce problème complexe, mine de rien, je vois pas vraiment d'issue. En gros, si on est factuel, c'est une énorme boîte chinoise. La Chine va jamais laisser une boîte américaine en prendre possession. Je vois pas vraiment de scénario dans lesquels TikTok se fait pas ban aux US.
Si la loi passe. Ça pourrait être des lois plus sur la protection des données, et sur qu'est-ce qu'ils mettent en place pour okay.
Bonne grosse dose de lobbying, quoi.
Friendly, quoi. Ouais, exactement.
Ouais, ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal, du coup, ça permettrait de faire un petit peu améliorer TikTok sans le supprimer. Ouais, ça sera un bon compromis. Donc, ça veut dire, en fait, la loi ça s'assouplit, en fait, un petit peu.
Ouais. C'est une manière détournée d'aborder le sujet, quoi.
D'ailleurs, en parlant de boîtes états-uniennes, de compétitivité, de situation économique, etc., j'ai vu que c'était l'IPO de Reddit. Toi, t'avais vu ça, Anna, aussi?
Ouais, j'ai regardé ça aussi, parce que c'est une boîte que je suis... Je pense qu'on n'en a jamais parlé de Reddit, mais pour moi, c'est un peu comme Product Hunt. Ça a juste...
C'est marrant que tu dis ça, mais moi, je le positionne pas du tout comme ça.
Moi, je le vois comme un petit... Ouais, un petit... Comment dire? Petite utopie de l'Internet, quoi.
Pour moi, Reddit, c'est là où les rageux vont déverser toute leur rage.
Non.
Quand tu vas sur des threads et tu regardes toute la rage et la haine que les gens peuvent avoir sur des sujets. Et moi, je suis là en mode, waouh, c'est chaud, quoi.
C'est vrai. Peut-être que ça concentre plus.
Je sais pas.
C'est très entertaining, du coup. C'est un pouvoir de divertissement assez important.
Par rapport à ce que tu disais, Anna, sur les influenceurs, effectivement, maintenant, il y a toute une économie de YouTube, de rehash, on va dire, de re-upload le content, parce que c'est tellement entertaining. Mais par rapport à ce que tu disais, Axel, en vrai, je pense que je rejoins Anna. Pour moi, Reddit, c'est un espèce de d'iceberg qui est un peu détaché, qui flotte encore un peu dans l'eau, malgré le fait qu'on est en plein global warming de la culture Internet, de ce qu'elle a été dans les années 2000, un peu de tout ce qu'elle a de mieux, de pire à apporter, mais c'est assez refreshing. C'est un peu la même mentalité que les Tumblr ont eu à l'époque, ou un peu de ça.
Moi, ça me rappelle un peu des 9gag ou même jeux vidéo.com, en fait. Les espèces de trucs où ça part vraiment dans tous les sens et tout le monde raconte ces trucs. Mais après, comme tu dis, Axel, t'as le côté anonymat qui fait que, t'as de la haine et des trucs comme ça.
Mais moi, je dis ça, je reconnais que, en tout cas, sur Reddit, ce que je trouve intéressant aussi, puisque c'est pas, tu vois, c'est pas le doom scrolling sur TikTok. Il y a pas que des vidéos de gens en train de faire des chorégraphies qui deviennent des viral videos, etc. C'est que puisque c'est un médium écrit, et ben en fait les gens discutent. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et souvent, j'arrive dans des threads où des gens apportent vraiment des perspectives différentes sur plein de sujets. Et en ça, je trouve qu'ils ont vraiment réussi un truc.
Et il y a un vrai système de modération en place. C'est-à-dire qu'il y a des limites dans les subreddits, t'as des gens qui contrôlent, que ça part pas à volo. Donc non, franchement, moi, j'ai pas un jeu.
Not safe for work.
Exactement.
Peut-être son internet.
Depuis internet.
C'est ça. Donc pour revenir sur la news, donc ils ont ils ont été cotés en bourse, donc c'était hier. Et ils ont fini, du coup, à la fin de la clôture de marché, ils étaient plus appréciés que ce sur quoi ils ont commencé. Ce que je trouvais intéressant, c'est quand même, c'est un vieux réseau, donc c'est cinq. Un bout de temps qu'ils existent. Et ce qui m'a interpellé, c'est l'argument qui aura permis d'être aussi bien valorisé. Alors, ça reste un tout petit réseau social, donc c'est le moins valorisé comparé à Meta, etc. Mais c'est qu'en fait, ils ont vachement mis l'accent sur le fait qu'ils vont pouvoir vendre leur contenu pour entraîner les modèles.
On y arrive.
Voilà.
C'est ça le modèle économique, du coup, je connais pas le modèle économique.
Le modèle économique, non, c'est surtout de l'advertisement.
Ok, ouais, classique.
C'est surtout ça. Mais là, en fait, ce qu'ils expliquaient dans leur public listing, c'est que, en fait, il y avait vraiment une masse de contenu qui pouvait être utilisé pour entraîner tous ces modèles via.
Du coup, je trouvais ça. Vous avez vu d'ailleurs ce mini scandale de l'interview de Mira Murati par la journaliste de chez, je crois que c'est Washington Post ou un truc comme ça. Donc Mira Murati, la CTO de OpenAI, se fait interviewer par une journaliste et en fait la journaliste lui dit: d'où vous prenez les données pour entraîner tous vos modèles chez OpenAI? Vous utilisez par exemple des vidéos YouTube, vous utilisez par exemple des données qui sont disponibles en ligne, mais est-ce que vous avez des licences pour ces données que vous utilisez pour entraîner vos modèles d'intelligence artificielle, etc. Et là, drame, Mira Murati, super bizarre qu'elle ait pas préparé cette réponse. Ça se voit dans l'interview. Elle a une réponse pas du tout préparée, où elle est, enfin, tu vois que c'est très inconfortable et elle dit oui, on utilise tout ce qui est publicly available, mais publicly available, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que tu as une licence pour utiliser ces informations-là ou pas? Donc, tu vois, c'est super intéressant que Reddit se soit positionné là-dessus comme modèle parce que c'est un vrai business.
C'est un peu étonnant qu'elle n'ait pas préparé cette question, par contre.
C'est ce que dit tout le monde.
Ceci dit, OpenAI a été depuis toujours assez très, très discret sur quelles étaient les données avec lesquelles ils entraînaient leurs modèles et notamment comment ils les préparaient, les structuraient, quelles étaient les activités de data quality derrière. C'est vrai que c'est un truc dont ils ont très, très peu parlé. Mais oui, effectivement, tout bon, tu aurais dû lui préparer quelques éléments de langage, deux, trois bullet points.
Exact. Mmh. Eh ben, avant de te laisser partir, Alexia, il faudrait que tu nous parles un peu de cet événement qui va se passer cette année que je n'aurai pas le plaisir de suivre en un peu dégoûté, j'avoue. Mais ouais, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe chez Figma?
Bah, attends, c'est marrant parce que je suis désolée que tu puisses pas venir. Mais non, on parlait de l'IA et alors évidemment, grosse thématique aujourd'hui dans tous les métiers créatifs, donc évidemment notamment dans le design et dans chez Figma. Et donc, on a Config qui arrive en juin de cette année, ça va être la grosse conférence annuelle qu'on organise. C'est un peu notre giga keynote à nous avec toutes les releases produits qui vont venir avec. Spoiler alert, il y aura des choses avec de l'IA dedans, parce que c'est un peu inévitable. C'est un peu comme Thanos.
Ça c'est même pas genre je vois pas une boîte aujourd'hui qui fait une conférence. Et
non, exactement.
C'est pas possible.
Pour ça que je pense que c'est pas un gros spoiler. C'est pas un gros spoiler. Après, comment on va le faire, c'est peut-être là que ça va devenir intéressant.
Peut-être ça.
Mais ouais, et en fait, c'est alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler, c'est que tu me disais tout à l'heure, Axel, en amont de cette conversation, que aussi chez Atlassian, vous organisez du coup votre conférence prochainement. Et on parlait un peu des différences de subtilité. Tu disais par exemple, chez Atlassian, c'est très future of work. Nous, chez Figma, c'est très future of creativity. Et alors, dans un contexte où évidemment, l'IA déchaîne les foules sur est-ce que l'IA devient le cerveau de demain? Est-ce que l'IA vole les jobs créatifs qu'on pensait jusqu'ici protéger Quels éléments de réponse nous on a apporté en tant qu'outil. Puis tu disais tout à l'heure aussi que les outils, en fait, au final, c'est un peu ça qui débloque aussi parfois les mœurs et les cultures dans les entreprises. Donc c'est quoi notre responsabilité là-dedans? Et effectivement, quand tu vois le line-up qu'on vient de sortir, alors à l'heure où on enregistre, il est sorti il y a un peu moins de 48 heures. C'est tout prêt. Je recommande d'aller le regarder. Il y a des gros noms. Alors, il y a les noms habituels auxquels on s'attend. On a la SVP de Disney, on a le VP Design de Slack et compagnie. Mais à côté de ça, on a énormément de big shots IA qui viennent aussi parler, évidemment. Puis à côté de ça, on a pas mal de wildcards, et ça, c'est le côté qui me fait plus plaisir. Hein. Très craft, très art. On a le Team Lab, notamment, qui vient du Japon pour parler. On a le mec qui a créé Wordle. On a des artistes qui ont travaillé sur les sets pour créer, en fait, tout ce qui va être VFX, effets spéciaux, 3D, typographie, enfin... On a vraiment mis d'emphase sur le fait d'avoir un peu toutes ces énervées-là, en fait, qui coexistaient avec toutes les conversations qu'on va avoir autour de l'IA. Et voilà, je pense que c'est, enfin, pour expliquer un peu les genres de conversations qu'on aimerait avoir là cette année dans l'industrie. La vision de Figma historiquement, c'était make design accessible to all. Et en fait, là, on est en train tout doucement de se repositionner sur un from imagination to reality, qui apparemment en fait était censé être notre credo au tout début de Figma. Puis il y a des gens qui ont dit à Dylan Field non mais c'est trop abstrait, personne va comprendre. donc ils l'ont laissé tomber. Et en fait, on est en train, dans un contexte où l'IA arrive un peu partout, ça reprend tout son sens. Donc en fait, on est en train d'y revenir tout doucement sur la notion de from imagination to reality, et du coup essayer de créer ces espaces de conversation. On va voir comment ça va, les deux vont interagir. Mais on a une vision très... Enfin, on n'a pas encore été à fond sur le hype IA chez Figma. On n'a pas encore sorti des choses à fond comme d'autres produits l'ont fait, parce qu'on a été très, très intentional sur la façon dont on l'approche. On ne veut pas tomber dans le hype et faire juste des misapplications de l'IA. On veut vraiment faire... on a toute une philosophie que je ne peux pas forcément détailler, parce que ça reste un peu confidentiel, mais... On a des équipes produits, quand on peut en faire leurs 10 commandements, on réfléchit très profondément à comment est-ce qu'on va l'intégrer. Puis en fait, c'est un peu comme good design is no design. Normalement, si tu fais les choses bien, que ce soit du design avec ou sans IA, t'as l'impression qu'elles ont toujours dû être là. Donc je pense que ça va être un truc un peu de ce style-là. Une fois que le hype sera passé.
Ouais, là où je trouve, tu vois, qu'un Notion AI, je trouve que Notion l'a un peu trop poussé, et justement, ce côté no design is, enfin, good design is no design, je trouve qu'ils l'ont pas hyper respecté. Moi, je viens de comprendre, il y a quelques minutes, en fait, que c'était comme conférence Figma.
Conférence Figma. Ouais.
Et donc, moi, je l'ai pas dit tout à l'heure. Moi, ce dont je me suis aussi rendu compte pendant cette conversation, c'est que ByteDance, le nom de la boîte derrière TikTok, c'est un peu comme Biden.
Je sais pas si ça s'est voulu, par contre.
Coïncidence.
Il n'y a pas une conspiracy theory là, tu vois.
Sortez les entonnoirs en alu.
Exactement. Merci beaucoup Alexia pour ton partage. Avant de se quitter, on va rapidement parler de l'outil IA de la semaine. Qui nous a déniché un outil IA cette semaine?
Déjà un outil IA, ouais. Rapidement.
Moi aussi. Et ils se rejoignent en plus, je crois, les deux. Alors on peut faire les deux, mais moi je... J'en ai un parce que je sais que je l'utilise maintenant au quotidien et que j'ai des gens qui m'ont posé des questions dessus. Et donc, je me dis, partageons ça au plus grand monde, notamment à tous ceux qui aiment faire un peu de création de contenu. Enfin, j'utilise Descript pour faire toute la partie vidéo de mon travail aujourd'hui. Et n'ayant zéro background en editing vidéo avant de commencer chez Figma, de devoir commencer à en faire un peu, Descript, c'est bien chouette. En fait, c'est donc quand tu uploads ta vidéo, ton contenu vidéo... t'as toute la partie IA qui va gérer le transcript, hein, et en fait derrière tu passes par l'editing via le transcript, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus intuitif que de devoir faire des cuts manuels dans tous les sens. Tu vois juste ton texte, exactement. Tu prends le texte, tu vois tout le texte que t'as envie de supprimer, tu fais juste supprimer, et ça édite ta vidéo automatiquement. Et tu raccourcis ou tu t'ajoutes ta vidéo comme ça, et c'est quand même vachement plus pratique. Après aussi t'as toute la partie du coup subtitles, tu peux rajouter tes sous-titres automatiquement, faire des captions accessibles, etc. Enfin, et c'est franchement 2-3 mouvements, t'as édité ta vidéo, c'est quand même bien chouette. Et Anna, du coup, toi, t'avais un truc.
J'aurais pas fait mieux.
Ce que j'ai vu passer, c'est Speedshift qui fait deux choses, qui arrive à, du coup, détecter les textes et les transformer en voix. Tu choisis la voix, c'est un peu comme, moi, ça me rappelle un peu des GPS quand t'es petit. Tu peux choisir, bon, là, du coup, c'est un peu plus stylé. Tu peux choisir autre que homme et femme. Et non, et après, ce que j'ai vu, c'est très cool, ça te le traduit. Donc, j'ai vu passer ça sur hier, une vidéo d'Orelsan. Bon, c'était pas cette technologie, mais je pense que c'est...
J'ai vu ça aussi.
Vidéo d'Orelsan qui rappe, je sais plus lequel clip, et en fait tu peux le changer en japonais, en espagnol et tout. C'est beaucoup trop drôle parce que ça respecte son ton de voix. Et en fait, c'est pas je trouve que c'est trop marrant, quoi. Ça s'exporte trop bien, j'imagine, en fait, d'avoir ton... Imagine, t'as ton... Je sais pas s'ils peuvent le faire sur des vieux chanteurs, mais tu prends, je sais pas, t'es fan de je ne sais trop quel chanteur américain.
Tu peux dire Johnny Hallyday, c'est pas grave.
Américain. Non, mais si tu le fais chanter en français, je trouve ça incroyable, en fait. Peut-être qu'on va propulser des carrières à l'international de chanteurs français. Parce qu'on va pouvoir leur faire parler, les faire chanter en anglais, je sais pas, ou inversement.
Parce qu'on peut pas, ils peuvent pas parler anglais pour l'instant.
Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très drôle et c'était super bien réalisé.
Écoute, super. On va regarder ça. Je mettrai les liens dans les show notes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là ce matin. C'était trop cool de t'avoir, Alexia. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir.
Avec plaisir. Si ça vous intéresse, allez voir le line-up de la conférence Figma qui arrive bientôt. Ça se passe
à la
config qui arrive fin juin. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.
Ciao. You've been on my mind for a while now. Trying to get you off, cause this ain't right now. You said it was a vibe for the time being. It was nothing more, but I just couldn't see it. This is not a song for the whole world. Felt like it could have been us against the whole world. Baby, you were mine and I was your girl. Whatever happened to the time that we spent sober? I take back what I said. I'm sitting with this love and all.